découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice, bonjour les auditeurs.
Vincent Renaud sur Nutri Radio, on est dernière émission de la saison et on est un peu en mode freestyle.
Freestyle ?
Freestyle, alors je sais pas, je suis en train de régler même les niveaux des micros
un
là.
Un peu mélancolique, ouais, c'est un peu fort là, ça résonne.
C'est vrai ? Bon, je vais baisser ouais, le son dans le
voilà,
c'est bon, ça va là ?
C'est un peu fort.
Ça passe un peu ?
Oui, là ça passe...
Ça passe mieux.
Ça passe mieux, c'est même... trop bas maintenant.
C'est même trop bas. Qu'est-ce qu'il est chiant. Non, je rigole.
Alors, s'il vous plaît, merci de respecter vos chroniqueurs.
Vous savez quoi, je dis ça avec... Parce qu'on sait qu'entre nous, on a une belle complicité et c'est que de l'humour. Mais quand je suis arrivé dans votre cabinet, parce qu'on fait l'émission en direct du cabinet de Vincent Renaud,
si,
il
oui.
était en ligne pour la faire, et j'arrive et il dit, mais qu'est-ce qui va me faire chier
Oui.
Eh oui, vous voyez, c'est le retour du chien à la chienne, je sais pas comment on appelle ça.
Je t'entends pas dans le...
Ouais.
Dans le casque.
Là c'est bon.
Là je t'entends, voilà.
Ouais, c'est bon. Allez, on ne touche plus rien.
Là c'est parfait.
En tout cas.
Oui, on... non, c'est on se charrie.
Mais oui, c'est vrai.
C'est normal. Qui aime bien châtie bien.
C'est vrai, tout à fait. Et on voilà, si on peut plus, on plaisante entre nous. Sachez, ouais. Mesdames, messieurs, d'ailleurs, parce que j'ai constaté que tout le monde n'est pas chambreur. Mais sachez que quand on se taquine, c'est vraiment quand il y a une grande sympathie, sinon on taquine pas, on fait des émissions sérieuses et on essaie de pas aller sur des terrains comme ça. Mais s'il y a de taquinerie, c'est qu'il y a une belle complicité entre Vincent Renaud et moi. Et donc merci à vous Vincent, encore pour cette belle saison de partage, de transmission, d'infos.
Ben oui.
C'était encore vraiment très intéressant. J'espère qu'on va continuer l'année prochaine. Et puis on remercie aussi notre partenaire, laboratoire COPMED, incroyable.
Ils ont re-signé, ça y est
Non mais là en tout cas...
Mercato, c'est Mercato d'été.
Votre émission est très demandée, donc attention, mais tout simplement. Dire qu'on les remercie beaucoup, c'est important d'avoir des marques engagées qui ont compris l'utilité aussi de pouvoir être partenaires de radios comme la nôtre et peut-être d'autres aussi, mais pour aller permettre aux gens d'avoir une meilleure compréhension de leur santé et aussi aux professionnels de santé qui nous écoutent et de bien-être, et bien de s'informer un peu plus à défaut de se former. On sait que c'est quand même aujourd'hui quelque part obligatoire tout le temps, prendre des infos, les nouvelles études cliniques qui tombent, se battre contre les idées reçues, pas la vieille médecine, mais il y en a encore qui font de la médecine avec des données de 1952, n'est-ce pas? Et donc en fait, il y a plein de choses qui évoluent.
Et alors, j'ai été ravi d'apprendre que beaucoup de médecins, généralistes ou spécialistes, écoutent Nutri Radio, et en particulier mon émission. Je ne pensais pas qu'elle avait une référence de valeur scientifique.
Référence mondiale. Il y a PubMed et il y a vous.
On ne va peut-être pas exagérer, attention les chevilles. Et en fait, ils me disent, le problème c'est que, et d'ailleurs ça a été repris par, dans le congrès de l'hypersanté, où on s'est croisé d'ailleurs là-bas, hein, Fabrice, où un scientifique, un chercheur disait, le grand drame aujourd'hui de notre médecine en France, c'est que la médecine et l'enseignement de la médecine a pris 30 ans de retard par rapport aux connaissances scientifiques de la science. Et quand je vois par exemple que mes enfants qui ont fait médecine et que je faisais réviser pour leurs examens, je voyais que le programme n'avait pas changé depuis ma génération à l'époque des années 80, c'est-à-dire c'était l'époque du Minitel. Vous imaginez qu'aujourd'hui l'enseignement de la médecine et que les profs de fac, et j'ai d'ailleurs un copain de fac qui est prof et qui enseigne en cardiologie, ancien professeur de cardiologie, et il me disait, mais c'est vrai, tu as raison, les cours que je donne aujourd'hui aux étudiants, c'est les mêmes que je donnais il y a 30 ans quand j'étais prof de fac. C'est un PUPH, je ne dirais pas de quelle fac et ni son nom, parce que sinon il va se faire taxer, et il me disait, mais je lui dis, mais pourquoi vous réactualisez pas vos connaissances, les cours, notamment le cholestérol, on sait très bien qu'aujourd'hui tout s'est dépassé, la science ne dit plus la même chose que ce que vous racontez.
Et alors pourquoi?
Eh bien, c'est un peu... Alors, c'est par flemme, déjà, parce que reprendre tous les cours et faire des formations, ma fille, qui qui a donné des cours à la fac de médecine de Nice me disait, moi c'est mon chef de service qui me donnait ces cours que je relisais devant les étudiants, et de génération en génération ils se refilent leurs cours, et elle me disait mais moi j'ai pas le temps de bosser, surtout comme on est payé à coup de lance-pierre. Je vais pas m'emmerder à refaire toute une revue de bibliographie, réactualiser mes compétences, tout ça alors qu'on est très mal payé. Et moi, j'ai des journées pleines à craquer entre le bloc, la chirurgie, les consultations, etc. Le cours, je fais ça en plus et je suis quasiment pas payé. Donc j'ai pas envie de m'emmerder et j'ai pas le temps, donc je récupère des cours de copains, de vieux profs, etc. Donc ça veut dire que le niveau de l'enseignement, c'est le même qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire, si on compare en technologie moderne, c'est comme si on revenait au Minitel. Non mais je fais une caricature.
Moi je suis encore Minitel, il y a autre chose.
Ça a progressé. C'est-à-dire qu'il y a l'IA, il y a etc.
Pardon, donc, il y a quoi?
Il y a l'IA. Il y a.
Attendez, je suis en train de me connecter 3615. Hula.
Hula. Mais c'est fou de se dire que les connaissances médicales n'ont pas progressé. Alors après, on sait qu'on peut faire le théorie du complot en disant que oui, Big Pharma, ça les arrange, comme ça ils vendent plus de médicaments, et que l'approche préventive que nous on défend est très en retard dans l'enseignement des études de médecine. Et d'ailleurs, ils sont en pleine remise en question aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant par
je
rapport à
tout,
cet enseignement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les approches non médicamenteuses et non conventionnels sont enseignés dans plusieurs facs de médecine en France, sauf que ça ne plaît pas à certains doyens de fac, et qu'il y a à l'Assemblée nationale un groupe de députés nommé ou commandité par le ministère de la Santé qui est censé, alors ça c'est pas une mauvaise chose, est censé référencer toutes les approches non médicamenteuses et non conventionnelles qui sont enseignées dans les facs de médecine pour connaître le niveau de l'enseignement et le niveau des connaissances afin d'évaluer le niveau scientifique par rapport à ces pratiques pour éviter les dérives charlatanesques, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi j'ai toujours peur dans cette espèce de d'enquête pour évaluer les connaissances, c'est déjà, est-ce qu'ils ont fait appel à des médecins comme nous pour évaluer les DU, les diplômes universitaires qui sont enseignés ? Et je pense pas. Aujourd'hui, quand on voit le conseil scientifique, alors je parle pas du conseil scientifique de l'époque du Covid, où on sait que c'était que des médecins corrompus, mais bon,
ça n'engage que vous, évidemment, et on embrasse Martin Blachier
et les autres.
Et les autres. Non, il n'était pas, carrément, là, je suis désolé, je suis obligé quand même de dire, il n'était pas corrompu.
C'est pas des corrompus.
Il y avait un biais, peut-être.
Il y avait un biais au niveau des compétences et des connaissances. À l'époque, ils avaient même convié Didier Raoult et Christian Perron, qui faisaient partie du conseil scientifique. Ils se sont fait dégager en cours de temps, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais moi, ce que j'aimerais, je suis content qu'il y ait un conseil scientifique qui se crée pour évaluer les approches non médicamenteuses et non conventionnelles, pour sortir du lot toutes les approches qui seraient charlatanesques et sectaires et qui ne correspondraient pas aux connaissances scientifiques. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que nous, médecins fonctionnels, que les médecins acupuncteurs, homéopathes, phytothérapeutes et tout ce que vous voulez dans les approches non médicales, art thérapeutes, hypnothérapeutes, etc., soient aussi conviés à la table pour évaluer le niveau de connaissance et les résultats qu'on peut attendre de ces approches non médicamenteuses. Alors, c'est tout ce que je demande. Moi, si le CINAMIEF, on nous demande, en tant que président du syndicat, tiens, est-ce que vous voulez faire partie des débats ? On m'a demandé, d'ailleurs. J'ai pas répondu au questionnaire, mais c'est pas...
Voilà, bravo.
Non, mais je vais le faire. Je vais certainement participer, mais je sais pas à quel niveau notre parole va être entendue. C'est toujours ce que j'ai peur.
Mais oui, mais si vous participez pas, sera pas entendu du tout.
Via l'UNAPL, qui est l'Union des syndicats de professions libérales, on serait soi-disant, j'attends d'être convié au débat pour mettre au clair les approches non médicamenteuses qui seraient validées.
Si vous ne participez pas, on va dire que vous vous défilez et donc tout le monde pourra dire ce qu'il veut et vous ne serez pas là pour exprimer votre point de vue, donc c'est important que vous y alliez.
Je viendrai, mais j'ai toujours peur des dérives et qu'on nous taxe de complotistes, anti-vax, comme j'ai des fois entendu sur mon syndicat, et je trouve ça malhonnête de juger une association qui aujourd'hui a juste pour objectif de réglementer, de régulariser un petit peu toutes ces approches sur médicamenteuses.
Que ce soit clair et net, vous n'êtes pas anti-vax?
Pas du tout.
Bien, ouais, vous voyez, ça va mieux en le disant, parce que
voilà. Après, je veux bien taxer de complotiste, je m'en fiche. Aujourd'hui, tout le monde est complotiste. Dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, ah, t'es complotiste.
Qu'est-ce que ça veut dire complotiste? Moi, je ne sais même plus.
Je ne sais plus. C'est tellement galvaudé ce nom que moi, ça me fait sourire.
C'est pas un peu l'argument des faibles, parce qu'aujourd'hui, on peut débattre. On pourrait dire qu'il y en a qui ont une vision A, d'autres qui ont une vision B. On discute et ces discussions émergent quelque chose et chacun se fait son avis.
Ben voilà.
Là, quand on n'est pas d'un avis certain, on est soit complotiste, soit machin. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas là. Par contre, j'ai une vraie question pour vous.
Oui,
sur, on va marquer une pause, mais j'ai une vraie question pour vous sur, vous avez dit, cette reconnaissance des pratiques non médicamenteuses que portent beaucoup de médecins qui sont aussi médecins phytothérapeutes, médecins et peut-être encore autre chose avec des spécialités différentes. Mais justement, c'est peut-être là où il y a un point à voir, un point très important, mesdames, messieurs. Et si vous pensez que cette question a un intérêt, restez avec nous.
Ben, venez le 12.
Ça, parce qu'on va en parler. Et si vous pensez que cette question n'a pas d'intérêt, restez avec nous.
Non, elle est très intéressante.
Une toute petite pause.
Et je pense que juste après la pause, voilà, je vous donnerai cette réponse.
Allez.
En tout cas, qui me tient à cœur.
J'ai pas encore posé la question, mais le docteur Renaud aura la réponse, évidemment. C'est juste après ceci. Restez avec nous.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
C'est ça que j'adore avec le docteur Vincent Renaud, c'est que vous voyez, c'est la dernière émission de la saison.
Ouais, on part en live.
On n'avait pas vraiment de sujet, on avait prévu de parler quand même de quelque chose, on n'en a pas encore parlé.
Ah, du Nutrito Gala, mais
non,
ça...
Non, du sujet du Nutrito qu'on y reviendra à la fin, de toute façon à la fin on fera la partie... Mais... là on a abordé cette dernière émission de la saison. Merci de nous rejoindre chers éditeurs. Émission qui va reprendre dès le mois de septembre. Merci de vous abonner, merci de nous soutenir. Ça passe, on fait un travail, c'est la 6e année l'année prochaine. On essaie de faire du mieux pour vous donner des contenus qui vous servent. Et sachez que si vous vous abonnez, si vous partagez, si vous commentez, ça nous aide énormément. Parce qu'on reste un média indépendant et à tout moment on peut mettre la clé sous la porte. On peut partir en Jamaïque faire des bananes grillées.
Ça serait bien en fait,
on sera bien.
Du reggae,
je peux vous dire,
reggae man.
En tout cas, bon, on revient sur cette position de la médecine
conventionnelle versus non conventionnelle.
Versus plus de 360 avec le patient au cœur de la consultation. Et puis aussi la prévention. Parce qu'on a le volet est prévention, il arrive partout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle de plus en plus de prévention en santé publique. Mais en vérité, d'un côté, ils ouvrent la porte à la prévention. Et d'un côté, ils tapent sur des solutions préventives.
Absolument, ils sont complètement schizophrènes. C'est totalement aujourd'hui ce que nous on reproche aux politiques, parce que derrière il y a des lobbies, il y a des pressions, ça on le sait, on n'est pas naïf, mais je crois qu'il faut plus écouter le public et qu'est-ce que pense le public aujourd'hui de ces approches non médicamenteuses. On a demandé d'ailleurs, c'est un de vos amis très sympathique, il nous a fait un sondage.
Pascal Lebras,
CEO
de Expansion Consulting qu'on embrasse.
Et donc dans ce sondage, ils ont demandé un petit peu aux Français quelles étaient leurs visions de ces approches non médicamenteuses et non conventionnelles. Et 70% les plébiscitent et les pratiquent au quotidien. Vous savez que c'est un marché dans le monde, le marché du bien-être, c'est 800 milliards d'euros. C'est colossal, c'est plus que Big Pharma. Et c'est 800 milliards d'euros que Big Pharma n'a pas. C'est pour ça qu'ils nous aiment pas trop. Parce que ces 800 milliards d'euros, ils vont pas dans leur poche. Et ça, pour les actionnaires, c'est pas sympa. Je plaisante, bien
Après,
sûr.
Big Pharma, moi, je trouve aussi que l'appellation Big Pharma, c'est un peu péjoratif, alors qu'on est bien content quand même de trouver des médicaments.
Mais je plaisante quand je dis Big Pharma, parce que on a parlé de complotistes et c'est toujours pour taquiner. Non, moi, je suis pour l'industrie pharmaceutique pour qu'elle puisse nous apporter des solutions concrètes sur des maladies chroniques qu'on ne peut pas éviter et pour lesquelles malheureusement la médecine fonctionnelle ne peut rien ou les approches non médicamenteuses ne peuvent rien, donc il faut effectivement cette approche et donc c'est pour ça qu'il faut du conventionnel et du non conventionnel. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant, et mon ami Eric Menat a fait une conférence récemment dans un congrès sur evidence-based medicine, médecine conventionnelle versus médecine non conventionnelle. Alors la médecine conventionnelle se targue d'être scientifiquement validée par de l'evidence-based medicine, mais quand on regarde les statistiques, les études qui sont faites par les laboratoires pharmaceutiques, et qui se base sur cette EBV, Evidence-Based Medicine, en fait, les versus placebo, donc hein, randomisé contre placebo, ça fait comme une courbe, si vous voulez, de Gauss. Donc, en moyenne, le médicament va être efficace, on va dire, dans la tranche du milieu, entre 30 et 60%. Et puis après, il y a quand même toujours des gens qui auront au moins 10% des effets secondaires ou 10% sur lesquels le médicament ne marchera pas. Et quand on reprend ces statistiques avec cette même courbe de Gauss pour des approches non médicamenteuses, on va retomber sur la même courbe sur les statistiques versus placebo. Et donc finalement, quand on met côte à côte les approches non médicamenteuses par rapport aux approches médicamenteuses, si on se réfère au référentiel des médecins actuels, qui est l'evidence-based medicine, on arrive quasiment au même résultat. Et c'est pour ça que c'est pas normal qu'aux États-Unis, en Allemagne, certaines approches sont reconnues et remboursées, et qu'en France, ce l'est pas et c'est toujours blacklisté. Ça voudrait dire que les Allemands, ils font n'importe quoi, ils sont nuls, ils ont reconnu, par exemple, l'hypnose, l'art thérapie, l'aromathérapie ou d'autres techniques, et ils sont même pris en charge dans des centres de soins. Et nous, on les marginalise en se disant c'est pas bon. Alors que la médecine, elle devrait être universelle.
Oui, mais alors justement.
Il n'y a pas de frontières pour la médecine.
Sur ces pratiques, les médecins, ok. Après, il y a des spécialités. Après, il y a des médecins phytothérapeutes, bon, etc. Mais est-ce que la dérive ne vient pas du fait que médecin, c'est 7, 8 ans d'études, qu'après, oui. Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'aujourd'hui, on fait bac et au bout de 6 mois, on peut être naturo, être hypnothérapeute au bout de 3 mois, et donc, il y a des gens qui vont pratiquer des soins, une approche de bien-être, à vertu, dans un objectif de soins, et qui n'ont pas du tout les compétences, et ben, voilà, on met ça dans le même panier. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et c'est, j'ai pas d'assurance là-dessus, mais est-ce qu'il ne faudrait pas n'autoriser que ces pratiques à au moins des médecins?
Alors, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'assisterai à cette table ronde. J'espère en tout cas y être convié pour évaluer ces approches non médicamenteuses, non conventionnelles, pour sortir du lot tout ce qui est petite formation, bricolage en 2-3 week-ends qui n'ont rien à faire là. Et pareil, la naturopathie, si on veut qu'elle existe un jour en France, elle existe dans d'autres pays, donc il n'y a pas de raison qu'en France on n'ait pas des vrais diplômes, mais il faut uniformiser. Rappelez-vous l'ostéopathie il y a 20 ans, ils étaient tous divisés les uns contre les autres, et du coup les gouvernements les avaient blacklistés en disant « bon, l'ostéopathie ça marche pas, c'est nul, machin, etc. » Du coup les médecins s'étaient mis à faire de l'ostéopathie, les kinés, tout le monde a bricolé son truc dans son coin jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord pour créer une formation universitaire qui dure 5 ans, 6 ans, et aujourd'hui avec un vrai diplôme reconnu, et alors pas de remboursement bien sûr pour l'instant, mais moi je préfère personnellement voir un ostéo qui a fait 6 ans d'études que voir un médecin qui a fait 3 week-ends de formation en ostéopathie, mais oui. Ou un kiné. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et pour la médecine fonctionnelle, c'est le même problème. J'en ai discuté avec des doyens de fac, alors pas de fac de médecine parce que aujourd'hui c'est compliqué, les facs de médecine ont déjà beaucoup de choses à gérer, et intégrer des formations complémentaires en médecine fonctionnelle, je pense pas que ce soit pour aujourd'hui. Mais par contre, dans les facs de sciences classiques, avec mon ami Julien Grenier qui s'occupe du DU MAPS de Vincent Castronovo, de dire mais il faudrait faire une formation en 5 ans, pour moi, les gens non médecins, ils feraient Master 1, Master 2, licence, et ensuite ils feraient des formations complémentaires. Et au bout de 5 ans, ils auraient un vrai diplôme de praticien en approche fonctionnelle. Ils ne pourraient pas utiliser le terme médecine. Il faut savoir que le terme médecine est réservé à l'ordre des médecins. Et pour pouvoir mettre médecin sur sa plaque, il faut avoir passé un doctorat en médecine.
Ça, c'est un peu un combat du CINAMIEF, cette formation.
Oui, pour, moi, cette formation, j'aimerais qu'elle soit accessible à tous. Vous arrivez au bac, hein, vous faites votre demande et votre choix, comme pour être orthophoniste, pour être kiné, pour être machin, etc. C'est des bacs plus 5. Et ben, vous voulez être médecin fonctionnel avec des orientations en phytothérapie, en nutrition ou en micronutrition, et ben, vous suivez le cursus classique si vous n'êtes pas médecin. Par contre, si vous êtes médecin, vous avez droit à une passerelle qui vous permet de sauter les 3 premières années, la licence, et vous rentrez directement en Master 1, Master 2. Et vous terminez, et du coup, vous avez un diplôme, comme pour les médecins ostéos. Les médecins ostéos, ils ne font pas 6 ans d'études, ils ne vont pas se retaper 6 ans d'études, ils en ont déjà fait 8 ou 10. Donc, c'est logique qu'ils fassent une formation accélérée. Ils ont déjà les bases physiopathologiques, ils ont les connaissances anatomiques. Bon, ben eux, en 2 ans, ils peuvent passer un diplôme d'ostéopathie. Eh ben, pour la médecine fonctionnelle, on devrait faire la même chose. Une formation complète pour les non-médecins, mais qui dure 5 ans. comme se fait les comment on appelle ça les high practitioners en Allemagne ou en Suisse, c'est 5 ans. C'est 5 ans complet. Et là, on ne dit pas, ah ben tiens, lui, il n'est pas bien, il est bien. Non, il a fait des études, il a le droit d'exercer. Et au moins, on n'aurait pas de charlatans. Et de gens, comme vous disiez, ouais, qu'on fait 3-4 week-ends dans la formation Tartampion et qui se mettent hypnothérapeute ou zbibothérapeute. Et
c'est zbibou, ça. Attention, zbibothérapeute, c'est zbibou. Thérapeute de zbibou, mais c'est-à-dire.
Du zbou, non, n'importe
quoi. Le mec, il est parti en live. Mais eh bien, ce sera les mots de la fin.
C'est une expression, zbibothérapeute.
Moi, je ne connais pas, mais bon.
C'est des bricolos du machin. Et ça, je pense que le gouvernement, alors c'est pour ça que je suis intéressé à participer au débat à l'Assemblée nationale pour savoir quelles vont être les formations qu'on pourra valider ou pas. Prendre l'exemple des pays européens. Qu'est-ce que fait l'Allemagne? Qu'est-ce que fait l'Angleterre? Qu'est-ce que fait la Suisse?
La Bulgarie.
La Bulgarie, voilà, la Bosnie-Herzégovine.
L'Australie.
Non, ça n'a rien à voir. Non, je parle des pays, déjà en Europe. Si déjà, on va voir ce qui se passe en Europe, chaque pays, qu'est-ce qui est validé, pas validé, quel est le niveau d'études pour pouvoir pratiquer tel ou tel truc, etc. Et qu'on on est quand même, c'est l'Europe, les 27 pays d'Europe. On pourrait uniformiser une formation globale.
Mais oui, non, mais puis après, il y a des statistiques pour savoir dans quel pays sont les gens, peut-être, qui vivent le plus longtemps, les moins malades, les machins, les moins de maladies. Enfin, on pourrait savoir aussi les meilleures pratiques.
Bien sûr.
Il y a plein de données aujourd'hui, on est dans l'heure du big data.
Par exemple, si on regarde, j'écoutais encore il n'y a pas longtemps une vidéo de mon ami Jean-Loup Mouisset, docteur Mouisset. Il disait, on a la palme, on est numéro un au niveau du cancer du sein. La France. Pays quand même,
et ben voilà,
de la bonne nourriture, etc. Comment se fait-il qu'en France, alors qu'on fait le plus de dépistage de mammographie,
ça, c'est intéressant.
De tous mais les autres pays européens,
ah bah
et ben on est au numéro 1.
Oui, mais c'est peut-être en corrélation. Parce qu'on fait plus de dépistage, on les détecte plus, donc il y en a plus.
Oui, non, le problème, c'est qu'on fait du surdiagnostic. Donc, est-ce que c'est vraiment des cancers du sein qu'on dépiste, ou est-ce que c'est des petits kystes? Donc, on se dit, au cas où, on ne sait jamais, on va tout virer. Okay. Donc, il y a toujours le risque. D'ailleurs, au Canada, ils ont arrêté les mammographies systématiques, parce qu'ils ont fait un groupe mammographie systématique et un autre groupe avec des femmes qui ne faisaient pas de mammographie, qui faisaient juste de l'autocontrôle. Palpation. Oui, voilà, on peut se palper le sein, ou soi-même, ou par un médecin, et avec échographie 3D. Et ils se sont aperçus que finalement, le groupe qui faisait pas de mammographie avait moins l'espérance de vie était supérieure que ceux qui faisaient des mammographies systématiques. Parce que c'est quand même pas évident, vous faites une mammographie, oh, on a un doute, on sait pas trop, on fait une échographie, oh, on a un doute, on voit pas trop bien, bon, on va faire une biopsie. Mais pendant 6 mois, votre patiente, elle est en stress complet. Et puis après la biopsie, ouais, on a un doute parce que finalement on a prélevé mais pas au bon endroit, peut-être que c'est un cancer. Allez, on vire le sang, on fait 6 séances de rayon, on sait jamais. Et puis on vous fait une hormonothérapie en prime. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire tout ça? Je suis pas sûr. Et quand on discute avec des vrais experts du cancer du sein, ils disent qu'il y a les tumeurs in situ, très localisées, focalisées, une fois sur deux, elles disparaissent naturellement parce que des petits cancers, on en fabrique tous.
Et pourtant.
Et nous, dans la prostate, pareil.
Et pourtant.
Donc je suis pas sûr que.
Non, mais ça, c'est de vrais sujets. Prostate, cancer du sein, parce que, et pourtant, il y a des campagnes en disant il faut dépister de plus en plus tôt.
Octobre rose.
Octobre rose, qui est important aussi. Donc ça, on a...
Et qui finance Octobre rose?
Oh non, on rentre pas là-dedans. Oh là là, j'ai peur.
Non, mais j'ai mené mon enquête.
Oui, alors qui?
AstraZeneca, laboratoire qui vend le plus de traitements pour les cancers du sein. Donc, c'est toujours délicat.
Il y a un biais.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait du surdiagnostic, pousse les femmes.
Moi, je suis naïf quand j'entends ça. J'ai envie de vomir.
Et il y a un deuxième élément, parce qu'il y a des femmes qui nous écoutent. Souvent, les gynécos disent qu'il faut faire mammo et écho. Or, la mammographie, en fait, peut augmenter le risque de cancer du sein, et surtout c'est très traumatisant au niveau du sein, parce qu'on balance des rayons. Alors maintenant on a diminué les niveaux des rayons, parce qu'on s'était rendu compte que sur les mammographies ça pouvait créer des cancers du sein. Donc on fait des mammographies, mais light. Et, sauf qu'une fois sur deux, on voit pas grand chose, on a un doute, on va quand même faire une écho 3D. Alors moi j'ai posé la question à des radiologues, et l'écho 3D on voit mieux ou moins bien que la mammographie? On voit beaucoup mieux, parce que là, on va avoir certaines tumeurs qu'on voit pas à la mammographie.
Pourquoi faire une écho direct?
Pourquoi on fait? Ah ben, c'est l'HAS. C'est parce que c'est comme ça. Il faut faire systématiquement d'abord une mammographie et ensuite une écho. Alors, la mammographie peut permettre de dépister des petites calcifications mammaires que ne pourra pas forcément voir l'échographie. Alors, j'ai dit d'accord, ok. Alors, mais si vous avez plutôt des seins nodulo-kystiques, qui sont mastosies, qui sont un peu volume, enfin qui sont très denses, hyper denses, la mammographie n'est pas fiable. Ah ben non, on voit rien du tout. Donc pourquoi chez les femmes qui ont des seins mastosiques, on leur fait pas directement l'écho 3D? Ah oui, parce que c'est les codes de référence sur l'HAS, etc. Donc et ça ferait des, en plus ça ferait des vraies économies.
Ben oui. Bon, écoutez, intervenez. On a envie de vous voir. Voilà, moi, de toute façon, j'ai envie de vous voir à l'Assemblée. J'ai envie de vous voir discuter de ces sujets. Et ces sujets, vraiment, sont très intéressants.
Sont capitaux. Et 70% des Français, l'étude de Monsieur Lebras, Pascal, plébiscite en plus cette approche non médicamenteuse. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin. Le tout, c'est de réglementer, de trier les dérives sectaires, les pratiques non fiables, etc. Parce que des fois, j'entends des trucs de certains de mes patients. Je dis, oh là là, mais vous avez été chez qui? Qu'est-ce qui vous a fait? Qui vous raconte des trucs? Là, encore un qui a trouvé un remède pour dépister le cancer avant tout le monde.
Ah oui, j'ai entendu ça.
Une patiente qui a été voir un mec, qui lui dit, ah oui, mais je sais, je peux vous dire à l'avance que vous n'aurez pas de cancer. Et puis oui, vous aurez certainement un cancer. Il est médium, il est quoi? Et qu'est-ce qui...
Moi, j'ai entendu, et puis c'est dangereux. Une société qui s'est montée sur qui analyse avant l'analyse.
C'est-à-dire qui analyse avant l'analyse.
C'est-à-dire qu'ils vont faire des analyses vraiment en amont de l'amont dans l'amont pour savoir vraiment si vous allez avoir
un cancer ou pas.
Donc c'est encore après entre, et c'est vrai qu'avec l'IA, il y a beaucoup de choses qui évoluent, le prédictif et tout. C'est passionnant.
Non, je suis d'accord. Dans un moment passionnant. C'est bien la prédisposition, faire des tests épigénétiques. Là, c'est validé. On peut savoir. Il y en a une prédisposition. On peut pas dire si oui ou non on aura un cancer, mais on a une prédisposition et on va tout mettre en place pour diminuer. Après, il y a les cancers, malheureusement, qui sont génétiquement identifiables, comme les BCR1 pour les cancers du sein, les maladies de Lynch pour des familles de... Ça, c'est encore autre chose.
Allez, on va arrêter cette émission parce que je pense qu'on pourrait converser encore des heures et des heures. Et si vous voulez d'ailleurs qu'on ait ce genre de conversation à la rentrée, plutôt que sur des actifs, on peut aussi, je pense, parfois, c'est pas mal. Si vous êtes patient et que vous voulez échanger avec le docteur Vincent Renaud, si vous êtes professionnel de santé, et ça, on adorerait aussi avoir d'autres professionnels de santé qui veulent échanger avec Vincent Renaud, qui n'ont pas forcément le même avis, parce que l'antenne, elle est vraiment ouverte. Et on est très ouvert au débat, c'est comme
absolument,
ça.
Absolument, et c'est là où, chez Nutri Radio, on a une liberté de parole, ce qui n'est pas le cas partout.
C'est vrai.
Il ne nous censure pas, Fabrice, merci.
Pas encore.
Mais parce qu'il n'a que des professionnels qui interviennent sur son antenne, qui sont modérés dans leurs propos, qui ne sont pas excessifs. Il faut éviter...
C'est vrai, il y en a quelques-uns, mais bon.
Qui dérivent un peu, qui ne sont pas excessifs, qui ont une vraie formation scientifique.
C'est vrai.
Et du coup, c'est pas la répression des fraudes, mais le CSA ne pourra...
Le DIRCOM. Et puis on prend toutes les précautions. On vous rappelle bien à chaque fois que quand on parle d'actifs, ça ne se substitue pas à un avis médical ni un traitement. Et puis là, si on ne peut plus rien dire, on arrête tout, on met la clé sous la porte, on va en Jamaïque, c'est ça l'idée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la Jamaïque, mais bon, ça me donne pas
de plaisir. Ça me déplairait pas, Jamaïque. Mes jours là-bas, non, mais...
On sait pas. Bah, c'est quoi, on fera une émission spéciale en direct de Jamaïque. Si vous êtes médecin, vous écoutez cette émission, vous êtes en Jamaïque, on est preneur, on vient chez vous. Si vous êtes médecin, vous écoutez cette émission d'une île, même pas forcément la Jamaïque, même l'île d'Oléron, on est capable de venir pour faire une émission en direct de chez vous, oui.
Et pour terminer la boucle, parce qu'on parlait tout à l'heure des médecins qui écoutent l'émission, il y en a de plus en plus, et on disait, bah oui, c'est normal, vous apprenez des choses qu'on ne vous apprend pas à la fac de médecine. C'est aussi un des intérêts de Nutri Radio, c'est que la formation universitaire, certes, elle est importante et indispensable pour faire des bons médecins, mais il est important d'aller voir ailleurs, d'aller glaner un peu des informations ailleurs, sur Nutri Radio ou autre chose, pour continuer à se cultiver. Un médecin ne doit pas s'arrêter de se former.
Merci Vincent Renaud, rendez-vous à la rentrée, émission disponible en podcast tout de suite sur
Nutri Radio. Merci à vous tous.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.